Le projet amène les élèves à comprendre le sens du travail sur la langue, à ne pas rejeter les pratiques populaires, parce que si on crée aussi du mépris, on fabrique aussi de futures personnes glottophobes, hein, en transmettant ça. Hein. J'ai un témoignage d'une étudiante qui me dit « ma mère m'a éduquée à être glottophobe, à mépriser les façons de parler populaires hein. ». Et puis apprendre donc la langue dans la pluralité de ses usages et dans une vision plurilingue de la communication, parce que le monde est plurilingue, hein, c'est la majorité du monde qui est plurilingue. Les gens, enfin, il suffit d'écouter des Algériens parler, ça passe d'une langue à une autre. Tout ça, c'est un continuum, ça se métisse. Hein, on n'est pas dans du patchwork, il y a du métissage des langues. Et valoriser, bien sûr, les répertoires linguistiques des élèves. C'est le projet IPEPI. Au milieu, vous voyez une image de l'entrée de l'école maternelle La Savine à Marseille, où les enseignantes ont voulu essayer, tenter l'expérience de ce projet-là. J'ai amené très peu de flyers, je vais les laisser. Il faut que je demande au Centre européen des langues vivantes qui a soutenu ce projet. Que j'ai coordonné pendant 4 ans, officiellement 2, mais en fait, on a travaillé 4 ans et on continue. Et les enseignantes de cette école me disent que c'est fabuleux. J'ai interrogé des mamans et des papas qui me disent « on s'intéresse à nous, nos langues, alors elles ont une valeur, ça sert à quelque chose, hein, nos langues et nos cultures. » Ça crée un autre rapport entre enseignants, une confiance, ça évite des tas de malentendus entre les parents et les enseignants. Sur Radioactive, à Toulon, on a tout le travail fait par les élèves du projet Parole d'école. Ça avait commencé avec des élèves nouvellement arrivés au départ. Et puis d'autres expériences, et vous en connaissez plein, avec le conte, avec le théâtre. Nous, on avait écrit une pièce que les élèves avaient voulu appeler « Immigration », qui avait été mise en scène et qui avait permis tout un accueil de cette pluralité linguistique. Et puis voilà, dans ce petit ouvrage, je reprends un peu nous reprenons ce que je viens d'essayer d'évoquer rapidement, cette question de la maîtrise de la langue et cette confusion avec la maîtrise de la langue et des propositions d'inclusion du travail de la langue dans des usages sociaux, des pratiques sociales, hein, et le projet radio. Et je crois que pour mettre en œuvre tout ça, il faut aussi que nous sachions nous émanciper des évaluations, mais nous aussi, nous avons à retravailler les évaluations. On a créé un nouveau groupe de recherche qui s'appelle Pluréval, pour essayer d'élaborer, puis ensuite de faire pression pour que les évaluations en français prennent en compte le fait que les personnes qui passent ces évaluations sont des personnes plurilingues, hein, qui ont des usages variés. Parce que tant qu'on aura les tests à la ROMSI, nos tests de français qui évaluent... Alors, en FLE, on a bien les niveaux du cadre européen, mais on accepte le métissage, la pluralité des usages... jusqu'à un certain niveau, mais C1, C2, c'est fini. Il ne faut plus être dans la pluralité des usages. Hein. Il ne faut plus montrer qui tu es quand tu parles français. Hein. Il faut corriger sa phonétique. Voilà. Les nouveaux programmes pour l'école nous y aident, je crois, un peu, même si ça ne va pas jusqu'au bout. Hein, parce que regardez, le nouveau socle nous dit qu'il faut présenter aux élèves, finalement, que la langue est toujours en évolution. Ça, c'est pour nous un pas de géant hein, que la DGESCO a bien voulu faire. Hein. On avait été consultés, Claude Richer et moi, par la DGESCO. Mais quand même, on te dit qu'il faut les sensibiliser à son histoire et à ses origines latines et grecques. On n'arrive pas à oublier ça. Hein. Dans les anciens programmes, pour l'histoire, il fallait rappeler notre histoire gréco-latine et judéo-chrétienne. Ça, c'était notre histoire commune. C'est comme ça que l'histoire commune était définie. On ne parle pas de toutes les origines arabes des mots de la langue française, là, hein, par exemple. Mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qui était dit dans le socle commun 2005 du point de vue de la langue. Le programme du cycle 4 parle de langue scolaire, comme je disais tout à l'heure, de travailler les variations internes. Alors, on parle plus dans la rubrique « langues étrangères et vivantes ». Un peu moins dans maîtrise dans le français, même si maintenant on l'appelle langue scolaire. La DGESCO, quand nous avons présenté notre travail, nous a dit c'est bien ça pour les langues vivantes étrangères et régionales. Et non, mais le français c'est une langue. Les propositions c'est pour l'enseignement du français. Voilà, établir des contacts entre les langues. Phonologie, dire qu'il ne faut pas viser l'accent natif. qu'il faut viser la sécurité linguistique, ça, c'est un grand pas. Mais ce n'est pas dans la rubrique français. Voilà. Et puis, ben, si l'école ne suffit, si changer l'école ne suffit pas à changer la société, je crois que nous, quand même, si on peut apporter notre petite pierre, désobéir un peu, comme nous y invite Casal, et puis faire attention à ne pas entériner ces représentations hégémoniques de la langue, qui, encore une fois, est une langue définie par une classe dominante qui cherche de toute façon à conserver son pouvoir en faisant en sorte qu'un minimum de gens accèdent à cette langue dominante. Et dans la diapo suivante, les trois propositions de Philippe Blanchet, parce que souvent des enseignants lui disent « Oui, mais on fait quoi là ? On fait quoi ?» Ben, à court terme, et ce que je disais tout à l'heure, on prépare nos élèves à maîtriser cette langue dominante. Je me corrige pour ne pas dire du dominant, cette langue standard. Mais à moyen terme et à long terme, on essaie de changer les choses. Et à moyen terme, déjà, introduire des changements de l'intérieur en faisant autrement, et nous-mêmes dans nos pratiques, en faisant autrement, en résistant aussi à ce que l'institution nous demande. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à ce qu'il dit, à un autre monde linguistique qui est possible. Et en tout cas, prendre conscience qu'on est tous des acteurs glottopolitiques. Dans notre vie quotidienne, on l'est. Dans notre vie professionnelle, on l'est. Et voilà, toujours se poser la question, est-ce que je veux conforter cet ordre social dominant, hégémonique, ou est-ce que je veux participer à le déstabiliser et aller vers autre chose, Voilà. J'avais mis quelques points d'appui, si vous avez envie de lire les propos d'autres, notamment de Philippe Blanchet et de mes collègues de l'université de Corse. Vous savez aussi que... Ah oui, j'ai pas parlé de ce concept du grand sociolinguiste corse Jean-Baptiste Marcellesi. Et c'est en Corse qu'on a réussi ça, c'est-à-dire d'introduire une approche polynomique de la langue, c'est-à-dire que présenter la langue aux élèves comme ayant plusieurs normes, donc plusieurs usages. Et les enseignants là-bas sont formés à enseigner le corse dans une conception polynomique. Et moi je me dis que peut-être un jour on arrivera aussi, enfin on y arrive dans certains projets comme le projet radio, à ça. Donc mais... Et puis bon, des tas de livres que vous connaissez. Et Noël de Smet, il faut relire, je crois, son expérience d'enseignante de français en lycée professionnel, dans Au front des classes, où elle nous montre aussi comment elle travaille le français autrement, en acceptant les usages de ses... Parce qu'elle a des classes de filles, apparemment, de ses filles du lycée professionnel, où elle part de leurs usages pour les amener ensuite vers la langue dominante, parce que ça, c'est la stratégie à court terme. Je voulais vous laisser la parole pendant que je parlais, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, Sébastien va me couper. Ça va, je n'ai pas été trop longue. Non, peut-être on peut revenir sur quelques... Ah oui, je voulais qu'on écoute les deux enfants, la petite vidéo, qui sont dans le projet radio et qui, grâce à ce projet, ont été confortés sur leur langue du quartier. Au début, ils nous disaient, il y a la langue des riches et la langue des pauvres. C'est intéressant, parce qu'ils ont une super lecture sociale.
Tu as parlé, comme je veux dire, ce film est très formidable, c'est un très sympa question. Tu vas pas dire, cette question est super chaleur ou quelque chose comme ça. Ben non, tu vas dire, cette question est très bien. J'approuve la question que vous m'avez posée. Sinon, je dirais, votre question est très enrichissante. Ben, nous, notre quartier, on parle très vite, et à l'avant des mots, ça ne pose pas de problème. Grâce à la radio, il faut parler lentement, il faut bien articuler, sinon les auditeurs vont pas le comprendre, mais c'est dommage, il y a tout le travail qu'on fait.
Donc ils sont à fond dans ce projet parce qu'ils savent que c'est pour des vrais interlocuteurs, des vrais auditeurs. Ça reste pas dans la classe, ça reste pas, c'est pas une simulation. Il y a vraiment des gens qui disent, en plus Radioactive est très écoutée à Toulon. Donc voilà. Des gamins qui sont devenus de super sociolinguistes. Ça, c'est un de nos objectifs.
Merci pour la présentation.
J'étais un peu...
Donc du coup, c'est le moment voilà, où il y a
ouais,
des questions.
Oui, parce que peut-être je suis passée un peu vite sur certaines choses. Ah oui, avec plaisir. Ouais, oui. Voilà. J'ai la version 1, la version 2, la version 3, la version 4. La 4, Sébastien m'a dit, bon, c'est bon, il y a 22 diapos, ça va.
Il ira se ranger dans la rubrique lutte contre les discriminations.
Super. Oui, parce que vous voyez, Fabrice Dume, que Sud avait accueilli, je ne sais pas si c'était aussi avec la CNT, que j'aime beaucoup, hein, mais on l'a invité à Rennes à faire une conférence. Elle est en ligne sur la web, sur le CREA à Rennes, l'Université de Rennes a énormément de conférences en ligne de sociolinguistes très clairs qui sont vraiment chouettes. Il y a Thierry Bulot qui malheureusement est décédé et je pense toujours à lui quand je parle de ça en janvier dernier parce que c'était un chercheur très très engagé contre les discriminations. Il y a des vidéos de Philippe Blanchet puis de Fabrice Dume, je crois même qu'il y en a une de Philippe Corcuff. Donc on parle beaucoup de discrimination à l'école mais pas de discrimination linguistique. Hein. Le livre là a un super écho. La presse en fait pas mal, la presse, les médias écrits et radio et télé, télé ça a été rapide, mais parle surtout des accents. Or, dans ce livre, il est question aussi des usages du français syntaxique, morphologique, du français populaire et des langues, hein, des autres langues, pas seulement les langues régionales. Pour le moment, on parle des accents et des accents régionaux, hein, reste encore très... On ne parle pas des langues territoriales, des langues accueillies. Hein, celles, vous savez, le rapport Cerchilini parlait de 75 langues en France. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Mais bon, en 99, il en avait répertorié 75 parce qu'il ne pouvait garder que, pour leur donner appellation langue de France, que les langues qui n'étaient pas des langues officielles dans leur pays. C'est comme ça qu'on a l'algérien, le marocain, le tunisien. Mais on parle très peu des discriminations linguistiques. Alors que ça fait des dégâts importants.
Le moment échange pour commencer.
Oui. Derrière toi, Sébastien.
Oui, bonjour Philippe. Alors moi, d'abord un témoignage en tant que fils immigré, espagnol, étranger aujourd'hui, parce que je le reste encore. Et néanmoins, un parcours scolaire qui n'a posé aucun problème, alors qu'on a toujours parlé espagnol à la maison. Donc ça, c'est un premier message.
Merci.
Ensuite, et puis j'ai fait tout un travail, d'ailleurs, pour ne pas garder un accent trop provençal. Hein, parce qu'à un certain moment, effectivement, on passe dans certaines fourches codines. Hein, quand on s'élève dans les études et qu'effectivement, on va travailler à l'international. Et je croyais avoir échappé à cette historique. Et en fait, il m'a rattrapé à travers la dyslexie de mon fils. Hein, il est né en Espagne, il avait commencé à apprendre l'espagnol, puis on m'a dit que c'était dangereux finalement, que c'était peut-être à cause de ça. Donc j'ai fait la raccourcie en me disant que c'est plus important son équilibre qu'une transmission culturelle. Donc on a arrêté l'espagnol, malheureusement, notamment la reprise. Mais bon, ça veut dire que ce que vous décrivez sur le plan des mesures, des travaux que vous avez faits, et éventuellement théoriques, dans la pratique, c'est bien là. Et y compris transmis par des orthophonistes, par
absolument,
des enseignants,
les orthophonistes.
Par des sachants. Hein, et quand on est parent, ben, finalement, on se laisse embarquer. Donc, je voudrais quand même pas, ne pas porter un message d'espoir, parce que j'aime bien quand même penser positif. Là, actuellement, je parlais beaucoup à ce qu'on peut apporter aux jeunes dyslexiques à travers le numérique. Le numérique, c'est un sacré outil pour court-circuiter certaines parties de la langue qui nous casse les pieds. Je pense à cette orthographe française là qui est un peu lourde. Hein. Mon fils à 13 ans m'avait marqué parce qu'il m'a dit, sachant qu'on avait vécu et travaillé en Espagne, il m'a dit pourquoi on ne retournerait pas là-bas ? Là-bas je pouvais vivre libre.
Oh là là.
13 ans libre. Alors là, le coup de poing philosophique, il est brutal. Hein. Ça montre à quel point ici il en a bavé et à 11 ans il y a eu une fugue. Donc on n'est pas dans des brimades légères, on est dans des violences. Vraiment terrible, et non dite, et consensuelle. Hein. Donc voilà, moi je suis engagé depuis quelques années là-dessus. J'utilise comme médiateur social pour entrer dans cette société française et sa langue, le numérique. Parce que comme personne n'y comprend rien, là du coup, on me fout la paix. Hein, on ne vient pas m'interroger sur mes compétences, ma capacité. On ne me demande même pas l'étude, parce qu'on sait que les études, on n'a même pas eu le temps de les faire. Donc je suis tranquille, je sais bien vendre le truc. Je suis l'entrepreneur du numérique qui vient sauver les populations dans les quartiers périphériques de Marseille. Voilà. Éventuellement dans le collège de la Belle-Nommée pour les enseignants qui sont concernés. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'arrive à introduire une fissure dans cette langue française, hein, sur laquelle on a un corpus hein, qui est vraiment très rigide, à travers la compassion de la dyslexie, mm-hmm. et éventuellement à travers un peu de raison. Hein, et j'arrive à,